tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello.
D'ATH.
Bonjour, bonsoir.
Et de Morgan.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de la date de sortie de Pathway, nous enchaînerons ensuite sur Risk of Rain 2, on évoquera également un Kickstarter, tiens ça faisait longtemps, on parlera de Motion Twin, on ouvrira une nouvelle rubrique, les curiosités du tyran, n'est-ce pas ? Ça m'arrive de jouer à des jeux dont je ne parle pas parce que je ne les ai pas terminés, mais je me suis dit que des fois en parler un peu rapidement pour attirer votre attention dessus, ça pourrait être intéressant. On enchaînera ensuite sur les cheat codes payants de Rage 2. Et enfin, on terminera sur la crise Anthem, l'article fleuve que Jason Schreier a sorti cette semaine sur les problèmes qu'a rencontré le jeu. On va en parler. Et bon, spoiler alert, il n'y a pas vraiment de surprise dedans, mais c'est quand même intéressant. Allez, on va commencer, mon cher Mandren, cette semaine d'actualité. Avec Pathway qu'on avait déjà évoqué ici.
Oui, on en a déjà parlé il y a quelques semaines dans le podcast. En gros, imaginez Indiana Jones matinée de FTL avec une identité graphique très Chucklefish. Mm-hmm. Et ça sortira le 11 avril. On pensait pas du tout que ça serait si tôt, puisque on avait simplement un courant 2019 à l'époque où on a vraiment appris plus de choses sur le jeu. Et ben voilà, c'est pour le 11 avril. On a hâte de voir ce que ça va donner.
Bah, en tout cas, toujours aussi hypé par l'ambiance, le trailer est toujours aussi chouette. Toujours chez les indés, Mandren, une excellente nouvelle d'un autre indé dont on avait parlé, Risk of Rain 2.
Oui, Risk of Rain 2, on en a parlé parce qu'on était très intéressés par l'aspect nouveauté de cette suite. Parce qu'on rappelle que on passe de la 2D à la 3D pour cette suite. Et le fait est que ça a beaucoup intéressé les gens. L'Early Access Surprise a bien marché, puisque 650 000 joueurs ont pu y jouer au moment du lancement. Il y a déjà 500 000 copies qui ont été vendues. Pourquoi 650 000 joueurs et 500 000 copies ? Parce qu'en fait, au lancement de l'Early Access, il y avait une offre qui permettait, si vous voulez, d'acheter une copie du jeu et d'en offrir une à un de vos potes. Mm. D'où le différentiel entre le nombre de joueurs et le nombre de copies vendues. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle et les développeurs sont évidemment très heureux.
Bah, il y a de quoi, hein, surtout qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de se faire une place. En tout cas, moi, je suis content parce que ça prouve que le risque paie, quoi. Franchement, c'est pas évident, tu sais, de faire une suite et de partir sur la 3D, sachant que la 3D, c'est tout un tas de nouvelles choses à apprendre, et puis ça risque de ne pas plaire à ton public cible, tout simplement, parce que faire un jeu en 3D, c'est pas la même chose, quoi. On se rappelle tous des débuts de la 3D, où on avait tout un tas de licences qui se sont cassées les dents, déjà parce qu'elles maîtrisaient pas la 3D, mais aussi parce que le public cible aimer les jeux en 2D et pas en 3D, tout simplement. Mmh. Donc, très content que ça ait plu. Bon, je subodore que l'aspect coop du jeu n'y est pas pour rien, quand même. Il y a une impétence pour le coop. Je remarque ça toujours sur les jeux indés sur Steam, à chaque fois, les trades. Est-ce qu'il y aurait du coop sur ce jeu? Bon, en tout cas, rien à ajouter, si ce n'est que très, très content pour eux. C'est une belle surprise. Voilà. On va enchaîner, mon cher Dwayne, sur un Kickstarter. Tiens, ça faisait longtemps.
Et oui, donc c'est Firmament. Donc en fait, c'est le nouveau jeu des créateurs de Myst, donc le studio Cyan Worlds. On va être sur un truc assez classique au départ.
Avec plein d'énigmes où tu vas te prendre la tête pendant
des jours dessus. À la base, c'est ça, les jeux un peu à la Myst. Et puis ce qu'ils avaient fait après, c'était toujours le truc où il y a des moments où il va falloir que tu te dises « j'arrête, je me calme ». Puis parfois, en fait, tu reviens dessus et tu fais « ah putain », et tu trouves direct parce que quand tu te prends la tête, tu trouves pas. Et donc là, en fait, ce qui va un peu changer, c'est déjà bon... ça va être un peu mis à jour au niveau graphique. Et puis, dans les autres jeux de Cyan Worlds, on était toujours très solitaire. Là, on aura un petit compagnon un peu robotique qui ressemble un peu au compagnon qu'on a dans Destiny. Donc là, ils en demandent 1 145 000 euros. Ils sont à la moitié à peu près. Ils sont à un peu plus de 500 000.
C'est vraiment pas mal, hein, vu l'époque à laquelle on est, où les Kickstarters ne sont plus du tout en odeur de sainteté, on va dire.
Oui,
c'est ça. Donc là, il reste 20 jours, donc je pense que ça devrait le faire.
Bah, il faudra avoir déjà le boost de fin de campagne si ça marche ou pas. Moi, enfin, j'ai toujours... un problème avec les jeux de studio, c'est que je ne supporte pas les jeux anime, en fait. Donc, enfin, moi, ça me fait crise à chaque fois, ces jeux-là. J'ai pas la patience, en fait. J'ai absolument pas la patience. par contre, ce qui m'attire avec leurs jeux, c'est vraiment l'ambiance. C'est des gars qui savent créer des mondes un peu, lunaires, tu sais. Enfin, je crois que c'est une des rares, c'est un des rares studios, peut-être avec From Software, qui sont capables de proposer des mondes qui sont à la fois familiers, mais en même temps, totalement dépaysants, quoi, si tu veux. Ça reprend des concepts esthétiques qu'on connaît déjà, si tu veux, mais ça les travestit à chaque fois. Et en fait, voilà pourquoi ça, je suis un peu embêté avec leur jeu, parce que je trouve leur univers cool, mais je sais que je vais me faire chier sur gameplay, donc malheureusement, je passerai mon tour personnellement.
Ouais, j'avoue que c'est un truc assez particulier, où parfois, tu peux rester coincé, ouais, pour un truc bête. Et mais ouais, c'est des jeux à ambiance qu'on a plus beaucoup. Il y avait The Witness, par exemple, de Jonathan Blow, ce type de choses. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas.
Bah, c'est d'autant plus intéressant, effectivement, que c'est un genre qui se fait rare, quoi. Enfin, il y en a pas tant que ça, des jeux comme ça. Donc, on espère pour eux que ça va marcher, quoi.
Après, je vais prendre un exemple facile pour que tout le monde comprenne. Dans Resident Evil, c'est un jeu où il y a des énigmes. Mais entre-temps, tu peux aller te divertir à buter des zombies, chercher d'autres pièces. Alors que là, si tu bloques dans une énigme, en fait, bah t'as pas d'autre expérience qui est proposée. C'est vraiment de l'énigme.
Ah oui, c'est sûr que c'est pas un jeu Ubisoft. Hein.
Mais d'un côté ATH, j'ai envie de dire, enfin, je suis un peu gêné par ta comparaison avec Resident Evil, parce que Resident Evil, les énigmes, c'est Adibou.
Oui, non, mais c'est pas le même niveau de difficulté, parce qu'il y a un jeu qui repose entièrement sur ça. Et l'autre jeu, c'est les énigmes, ils sont là juste pour amener un rythme au jeu. Mais là,
ce que j'essaie de te dire, en fait, c'est des jeux où même quand tu joues pas, tu penses à ces jeux-là. Parce que t'as beau être bloqué sur un truc, en fait, tu passes ton temps à réfléchir. Et puis d'un seul coup, tu sais, t'as un mécanisme qui se débloque dans ta tête, il fait « Ah mais oui, attends, il faudra que je sache ça ce soir ». Je suis d'accord que effectivement, ça peut être frustrant parce que tu vas bloquer sur l'énigme. Il y a des gens qui kiffent ça, en fait. De se prendre la tête pendant des heures sur un truc.
Mais
tu
moi,
vois,
c'est vraiment ce type d'expérience que je kiffe avec ces jeux-là, où c'est, tu vas te coucher avec l'énigme en tête, t'es là, putain.
Ah, mais voilà, et bah, moi, c'est justement, c'est le truc qui me dérange un petit peu, uniquement
dans
ce type de jeu-là.
Je comprends, ça peut être aussi.
Moi, je suis comme
clivant,
ATH, hein, donc, c'est pareil. Hein.
Mais tu vois, c'est le truc clivant, c'est pour ça qu'il y en a pas énormément, et que c'est le genre de truc que tu vas trouver, bah, voilà, t'as un Jonathan Blow qui va passer, je sais pas combien d'années à faire son truc tout seul dans son coin. Où t'as des gens comme Seven Worlds qui vont lancer leur Kickstarter pour que les gens, la petite commu qui aime ça, payent pour le projet, quoi.
Et pourtant, c'est triste à dire, mais l'univers, il a l'air quand même cool. J'ai envie d'explorer l'univers parce que c'est vraiment plein de magie, de mystère, tu sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, je me dis, j'ai envie d'explorer cet endroit-là. Mais je sais pas, il me manque une phase intermédiaire, par exemple, je sais pas, une phase de jet ski pour se balader ou quelque chose comme ça, tu vois, pour
non,
me dire
c'est
OK.
Mais en fait, c'est ça qui est bien et qui fait un peu le sel des développeurs indés en général, c'est qu'effectivement, bah c'est pas pour tout le monde et comme on le dit, il y a des risques et
d'un
voilà,
autre côté,
c'est...
tu vois, j'aime bien ce genre de parti pris quoi. Quand le développeur dit moi mon jeu c'est ça, j'ai une idée précise de l'expérience que je veux, je sais que c'est des choix qui vont pas plaire à tout le monde mais je les assume.
Bah finalement ouais, ça se rapproche un peu du débat que tous les gens ont avec Sekiro, là j'ai vu beaucoup de débats où parce qu'il y a plein de gens qui kiffent le style machin et ils veulent un mode facile. Mais non, en fait, le créateur, il a une vision, sa vision c'est ça. Donc voilà.
Ouais, mais après, je te comprends.
Mon problème avec Sekiro, c'est que la vision elle peut être parfois un peu moisie. Hein,
mais... Non, oui, je suis d'accord, mais bon, il te dit ma vision, c'est ça. Il veut pas un mode facile parce que ça dénature sa vision. Donc, au bout d'un moment, le créateur te dit c'est ça mon jeu, soit t'acceptes ou pas finalement.
Mm. On en reparlera au moment du test. En tout cas, quand je vois un projet comme celui-ci, je me dis que c'est précisément pour ça que Kickstarter a été fait en fait. C'est typiquement le genre de projet qui évidemment n'aurait pas de financement de la part d'un éditeur de façon classique.
T'imagines un jeu solo avec des trucs sur lesquels les gens vont bloquer et c'est bon.
Et pourtant ils ont tort hein, parce que Myst c'est quand même un jeu qui s'est vendu à énormément d'exemplaires si je me souviens bien.
Oui, mais voilà, à l'époque. Mmh. Et donc là, on est vraiment typiquement sur les fondations du succès de Kickstarter il y a quelques années, hein, parce que là, très clairement, on n'est plus du tout dans l'âge d'or de Kickstarter, en tout cas pour les jeux vidéo. Et c'est vrai que quand tu vois ça et que tu vois qu'ils te demandent quand même $1 million ou 1 100 000 euros, tu te dis, c'est plus du tout ce genre de projet qui réussissent maintenant sur la plateforme, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont réussir ? A priori, c'est quand même plutôt pas trop mal parti. Mm-hmm. Mais, en tout cas, le projet, c'est un projet Kickstarter de la grande époque. Ceux qui marchaient, en tout cas, c'était ceux-là. Mm-hmm. Donc, on peut leur souhaiter du bonheur. Moi, personnellement, c'est pas du tout... Enfin, je rejoins un peu Tyran et ATH, c'est pas du tout le genre de jeu que j'apprécie. Voilà, j'ai beaucoup phasé sur The Witness, et au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que ça me saoulait, tu vois. Mm-hmm. Et là, c'est typiquement la même chose, quoi.
Ok, bon, on va parler maintenant d'un studio que j'aime beaucoup, c'est Motion Twin. Motion Twin, qui je le rappelle, est un studio qui a une structure horizontale. C'est-à-dire que, un peu comme Valve, c'est un studio où tous les employés ont un mot à dire sur les décisions à prendre, où ils font des votes, etc. Et du coup, c'est un studio qui fonctionne sur une très petite structure. Je crois qu'ils sont 8 personnes à peu près.
Oui, c'est ça.
Ils ont annoncé que malgré le succès de Dead Cells, qui est un très beau succès, hein, je crois qu'on peut le dire, ben ils garderaient leur taille tout simplement parce que ça correspond à leur fonctionnement et que le mode participatif, dès que tu grossis un peu trop, ben c'est plus possible, quoi. Donc écoute, moi je trouve ça très bien. Je pense que des gros studios, on en a déjà suffisamment comme ça. Hein, la croissance perpétuelle, tout ça, c'est pas toujours une bonne chose. Donc moi je trouve ça bien qu'on ait un studio qui soit lucide sur sa capacité à grandir et surtout qui veuille rester à cette taille là je pense qu'on a suffisamment de grosses boîtes pour pouvoir s'en passer.
Oui, et déjà que c'est un studio français, n'est-ce pas, donc
n'est-ce pas?
Oui, voilà. Mais en plus de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que quand t'as une petite équipe, et ben justement, ton projet, il a plus de chances d'être mieux maîtrisé.
On en reparlera sur un thème, hein.
À 8 personnes, c'est beaucoup plus simple de communiquer, de savoir exactement qui fait quoi. Dès qu'il y a un problème, on peut se rapprocher. Alors que dans des gros triple A, où il y a, je sais pas combien, 1000 personnes, par exemple, vous imaginez, chez Ubisoft, t'as un mec qui travaille sur Assassin's Creed. C'est pas la même chose pour remonter une information, alors que là je pense que ça doit être assez simple. Je trouve ça cool qu'ils ont pas les yeux plus gros que le ventre. Ils disent on fonctionne très bien comme ça, du coup on va continuer dans cette voie là. Et en plus ce qui est sympa c'est que, comment dire, bah Dead Cells c'était un putain de bon jeu. J'ai jamais terminé parce que, en fait, le format, j'aurais bien voulu avoir une suite justement pour pouvoir y jouer quand je veux. C'est un vrai bon jeu qui a eu des récompenses parce qu'il le méritait. Donc je suis vraiment impatient de voir sur quoi ils vont travailler sur la suite. Et c'est vrai que... bah chapeau, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que Dead Cells c'est un vrai bon jeu, quoi.
Voilà. Alors, on va maintenant parler de ma nouvelle rubrique, n'est-ce pas ? C'est la rubrique où le tir en part tout seul. Quoique, libre à vous, messieurs, de vous y investir, n'est-ce pas ? Alors, je me suis dit que ça m'arrive souvent de commencer des jeux, mais de ne pas forcément les terminer. Alors, je dis pas que ça va forcément être le cas de ce jeu-là, mais je me connais suffisamment pour savoir que j'ai très peu de temps, et je sais qu'il va falloir que ce jeu m'accroche pour que je le termine. Bon, a priori, c'est bien parti, hein. Vous le retrouverez probablement en test, je pense, ce jeu-là. Mais bon, je le dis, au cas où, quand même, il faudrait que j'en parle, parce que c'est un jeu qui propose des choses intéressantes. Et des fois, comme ça, quand on tombe sur un jeu qui nous... où on trouve qu'il y a un petit truc qui vaut le coup d'œil, mais on l'a pas forcément terminé, donc on veut pas non plus en faire un test, eh bien, je vous en parle maintenant. Donc, ce jeu, c'est Outward. Alors, pourquoi je veux vous parler d'Outward cette semaine ? Parce que déjà, on parlait de jeux avec des choix tranchés tout à l'heure. Ah bah celui-là, putain, c'est un jeu qui fait des choix tranchés qui vont pas plaire à tout le monde. Hein. Ça pourrait peut-être plaire à Monsieur Morgan ici présent, parce qu'il y a un aspect survie dans le jeu, je pense qu'il pourrait te plaire. Mais d'accord. Pas survie, tu sais, où tu vas creuser pendant des heures, mais un aspect planification, tu vois, je réfléchis à comment je vais me balader dans le monde, etc. D'un autre côté, c'est un jeu qui demande un certain investissement, donc ça pourrait être ça le truc qui pourrait te freiner, Mandrain, te connaissant un peu. Certes. Mais je pense que tu vas voir, il y a des choses là-dedans qui sont vraiment intéressantes. Donc, pourquoi je vous parle d'Outward cette semaine ? Déjà, la première particularité d'Outward, c'est que c'est un RPG où il n'y a pas de mort.
Remboursé.
C'est pas le Dark Souls du RPG. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a fait rigoler parce qu'il y a plein de gens qui, quand ils parlent d'Outward, ils disent oui, alors c'est un peu Dark Souls. Je fais quoi? Alors, j'ai l'impression que maintenant, dès que t'as une barre d'endurance et que t'as un jeu qui est un peu lent, tu sais, sur ses combats, où il faut peut-être anticiper un minimum ce qui se passe, et encore là franchement les mécaniques de combat sont tellement pétées que t'as même pas besoin d'anticiper, quoi, je veux dire que ouais, ça y est, c'est Dark Souls, tu vois.
Enfin, non, mais Dark Souls c'est devenu tellement une expression à la mode que bientôt quand on va parler du match Allemagne-Brésil où il y a eu 7-1, on va dire que c'était le Dark Souls du football, tu vois. C'est devenu n'importe quoi, tu vois. Dark Souls par-ci, Dark Souls par-là, sauce Dark Souls.
Enfin ouais. Bref, je le disais, c'est un jeu où il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que quand tu te fais défoncer la gueule, il va se passer un événement qui va faire que tu ne vas pas mourir. Par exemple, tu vas te faire emprisonner, tu vas te retrouver à poil dans une prison et il va falloir retrouver ton stuff et t'échapper, hein, évidemment. Par exemple, tu vas être sauvé par quelqu'un. Et par exemple, si t'as du bol, bah tu vas te réveiller là où t'étais, t'as survécu, voilà quoi. Ce genre de choses. Donc vous l'aurez compris, il y a des événements qui vont générer une histoire. Et je le précise également, c'est un jeu qui sauvegarde tout le temps ta progression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de save scumming où tu dis « Ah merde, je suis mort, quick save, quick load, quick save, quick load ». Non, 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 c'est pas possible dans ce jeu-là, c'est impossible. Donc, c'est un jeu qui te force à assumer tes conneries. Sachant que, attention, le fait de faire des conneries, ben, en réalité, ça peut être récompensé parfois. Je vous donne un exemple. J'avais créé un premier personnage pour tester un peu les mécaniques, et puis j'ai recommencé parce que j'ai dit « Ok, là ça y est, j'ai compris comment ça marchait, maintenant on va rentrer dans le jeu comme on veut, etc. » Donc le deuxième personnage que j'ai créé, j'ai décidé de faire un peu le fifou, parce que la première partie je l'avais joué un peu safe, et j'avais trouvé ça assez plan-plan, pour vous dire la vérité, c'était sympa, mais pas top. Et puis là, je me suis dit, allez, on va s'éloigner du village, même si on n'est pas bien équipé, etc. Parce que je précise, c'est un jeu qui a tout un aspect survie, en ce sens que il y a une vraie gestion de la limite de poids.
D'accord.
Il faut vraiment que t'achètes un superbe sac à dos, tu vois, avec une capacité de stockage importante. Et si tu dépasses cette capacité de stockage, tu vas marcher de plus en plus lentement, jusqu'à ce que tu sois... J'arrive, je rentre au village.
Non, le loot.
Je veux pas lâcher mon loot, non.
Aidez-moi.
Voilà, c'est ça.
C'est typiquement le genre de truc avec lequel j'ai beaucoup de mal.
Voilà, exactement. Donc t'as cet aspect survie-là, t'as l'aspect récolte de ressources. Alors je précise, mon vrai, non, tu ne vas pas passer des heures à creuser dans la roche. Tu cliques sur un bouton, t'as une animation de pioche et ça y est, t'as récupéré ta ressource. Hein. Donc tu pourras miner, mon vrai, mais tu passeras pas des heures à miner non plus, désolé.
Ah oui, donc en fait, du coup, je passerai moins de temps à remplir mon sac. Du voilà, coup, je serai plus vite.
Non, mais il y a plus de merde à ramasser bouger. Par terre, Morwen, donc c'est...
D'accord.
Et donc, t'as cet aspect-là, t'as l'aspect gestion de la faim et de la soif, et surtout, t'as l'aspect, il n'y a pas de carte. Donc, vous l'aurez compris, c'est un jeu, si t'as pas de sens dans l'orientation, tu peux vite être perdu. Donc, vous voyez, là, je vous ai donné tous les paramètres de ma partie. Et moi, je connais pas du tout le monde, je me dis, allez, à l'aventure compagnon.
Voilà. Excuse-moi, le jeu c'est un jeu en 2D ou en 3D, parce que ça peut être différent.
En 3D.
Ok.
En 3D, pas superbe. Hein, on
va... 3D schnapps.
Ouais.
Mais 3D quand même.
Mais tu vois, ça c'est un jeu pur schnapps, comme je vous en avais parlé. Mais pour le coup, c'est un jeu pur schnapps qui vaut le coup. Donc, je me fais défoncer la gueule, évidemment, au bout d'un moment, parce que je suis allé beaucoup trop loin, je suis tombé sur un mob qui était pété, qui m'a défoncé en un coup. Voilà. Et là, l'aventure commence. C'est-à-dire que je me réveille dans une caverne, avec une ambiance super glauque, et je vois un espèce de démon qui est en train de lire un bouquin.
Okay. Tout va bien.
Tout va bien. Bon, là, j'ai un arbre de vie qui m'offre plusieurs choix. Il y a le choix, mon Dieu, mais vous êtes un démon. Et il y a le choix, bah écoute, après tout, il m'a sauvé, donc on va essayer d'être sympa et de faire la conversation, tu vois. Moi, je suis parti du principe que il faut pas se fier aux apparences et qu'on va faire la conversation. Hein. Et là, le mec, il me file une compétence gratos, parce que je discute avec lui, on taille le bout de gras, il m'aime bien, et puis je lui demande s'il n'a pas des conseils à me donner, etc., il me file une compétence. Je me balade dans sa grotte, je fais, au fait, votre super arme là qui traîne par terre, je peux la prendre? Oui, oui, il n'y a pas de souci, prends-la. Ok, cool. Je précise que l'arme, elle est mais vraiment ultra pétée par rapport à ce que tu trouves dans le stuff, dans les environs de la ville de départ. Putain, cool. Enfin, tu vois, je suis mort. J'étais récompensé, en fait. C'est limite une récompense, tu vois.
Donc, bravo, tyran.
Je sors, et là, je me rends compte que... Putain, mais je suis où, en fait?
Ah ouais.
Je suis où, là? Parce qu'il m'a ramené à sa grotte, tu vois. Mais sa grotte, moi, je sais pas où elle est, en fait, par rapport à ma vie de départ. Et surtout que j'ai la pression, là, parce que, sans trop vous spoiler le scénario, en fait, on vit dans un village où il y a une tradition qui s'appelle le prix du sang. C'est une tradition très sympathique qui consiste à dire que, en gros, si tes ancêtres ont fait une connerie, hein, la connerie elle s'efface pas quand la personne elle est morte, hein, ça se transmet de génération en génération, si tu veux. Donc, il se trouve que j'ai une grand-mère qui a fait une grosse connerie et que toute la lignée depuis a payé le prix, tu vois. Littéralement, hein, c'est-à-dire qu'on doit payer de l'argent, etc. Et si je paye pas la somme que je dois, c'est un peu comme un crédit, si tu veux. Bah, on me prendra ma maison, en fait.
Bah, c'est voilà. Un peu comme le monde réel, hein.
Donc, le truc, c'est que malheureusement, ta dernière expédition pour trouver des sous, elle a mal tourné. Donc, il va falloir que tu sortes dans la nature pour récupérer des trucs, pour faire de l'argent, quoi, en fait. Et t'as un délai de 5 jours. Parce qu'il y a un cycle jour-nuit, etc., hein, évidemment. Mm-hmm. Et donc, j'ai la pression, là, parce que je me dis, merde, je sais pas où je suis. Il faut que je rentre chez moi. Je sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi. Et même si je parviens à rentrer chez moi, est-ce que je rentrerai à temps?
Ouais.
Surtout qu'en plus, je dois gérer toutes les contraintes dont je vous ai parlé précédemment. Faim, soif... Mmh. Bon, la faim et la soif, encore, ça va. C'est surtout les contraintes de poids et tout qui sont un peu chiantes. Mmh. Mais d'un autre côté, je me dis... J'ai quand même récupéré une super arme qui est vachement pétée. Donc, je vais en profiter, je vais me balader, puis on verra si à un moment donné, je finirai par retourner chez moi. Je fais vite, hein, j'avance... Je vais pas vous parler du moment où je suis tombé sur une rue perdue, où j'ai trouvé des trucs encore plus pétés, mais où j'ai fui tout de suite parce que j'ai vu des mobs qui avaient l'air très, 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 très dangereux. Je vais pas vous parler de la phase où je me suis battu avec un groupe de bandits, et le dernier bandit qui était encore en vie, alors qu'il restait ça de vie, et quand je dis ça, c'est vraiment pas beaucoup, m'a défoncé la gueule. Et où je me suis réveillé sur une montagne où il y a un vieux mystérieux qui a disparu, qui m'a sauvé la vie. Et où, en étant en haut de cette montagne, je me suis dit, alors attends, je suis à hauteur, est-ce que je peux essayer de me repérer? Et là, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille par là. Et effectivement, c'était par là, sauf qu'il a fallu que je traverse toute l'île, en gérant la faim, la soif, en gérant les rencontres assez dangereuses, ce genre de choses, en faisant du bivouac, voilà. Enfin, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui génère de l'histoire, de l'expérience, avec ses mécaniques. Et c'est des mécaniques qui sont très tranchées. Je veux dire, le fait de pas avoir de map, le fait de pas avoir de mort, c'est quand même assez couillu comme choix narratif, mais aussi comme choix de gameplay. Et ça fonctionne. Alors après, je pense que c'est un jeu qui va finir par avoir un problème au bout d'un moment, parce que j'ai remarqué que les mobs ne respawnent que très longtemps après. Donc je pense qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec des maps qui sont vides. Et ça, par contre, ça posera un problème, parce que il faut longtemps pour voyager d'un lieu à un autre. Et si tu voyages dans des lieux vides, c'est un souci.
Ouais.
Voilà, c'est un jeu qui est pété, je le dis, hein, c'est techniquement c'est pété, l'optimisation elle est ni faite ni à faire, enfin, c'est un jeu qui a des gros gros problèmes, et quand tu vois un trailer tu dis mais putain qu'est-ce que c'est moche, mais je tenais à vous en parler parce que vous voyez là, j'ai fait ça quoi, en une heure trente de temps, et ça c'est une expérience que je qualifierais d'unique, qui me fait revivre, vous savez, les premières années du jeu de rôle ont été un peu lâchées dans la nature. Sauf que là, il s'est pas contenté de singer les vieux jeux. Il a aussi ajouté ses idées à lui. Il a apporté quelque chose de nouveau à la recette. Et ma foi, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien et j'attire votre attention dessus. C'est un jeu qui se vend très bien en ce moment sur Steam, qui a des avis qui sont plutôt mitigés. Mais je comprends pourquoi ils sont mitigés, parce qu'il fait des choix très tranchés. Et que bah la finition c'est quand même pas encore ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé par ce que je vous ai dit, je vous incite à l'essayer. Ça vaut le coup, c'est intéressant. Je vous ai déjà parlé précédemment du fait que il fallait aussi accorder leur chance au jeu un peu schnapps, du moment qu'ils apportaient quelque chose. Et là, pour le coup, pour moi, on est en plein dans ça. C'est-à-dire qu'on est dans le pur jeu schnapps qui a tout un tas de soucis, mais qui apporte quelque chose de neuf à la recette. Et ce quelque chose, moi, je dis, il faut le conserver, et j'espère que leur jeu, il va cartonner, parce que si derrière, ils pouvaient, avec les moyens qu'ils vont acquérir sur ce jeu-là, faire quelque chose de plus polish, de mieux fini, qui fera une recette encore plus aboutie, bah moi, je suis client, quoi.
Et nous, on veut savoir si t'as réussi à rentrer chez toi ou pas.
Alors à la fin, oui, j'ai réussi à rentrer chez moi et j'ai réussi à rembourser le tribut, mais de nouvelles choses sont arrivées, mais ça c'est une autre histoire.
Ouais. Merci Percaster.
Il est fort.
Mais c'est ça, fort. Tu vois, en une heure et demie de jeu,
ouais,
j'ai eu
fou,
une vraie aventure.
Franchement, ouais.
Ma première sortie avec mon nouveau personnage, comment je suis rentré chez moi, la conclusion de l'histoire, est-ce que j'ai réussi à rembourser mon tribut, etc. Il s'est passé quelque chose et c'est unique ça. Et c'est tellement rare dans le jeu vidéo ce genre de choses que je peux pas m'empêcher de vous en parler avec enthousiasme, parce que même si je sais que l'expérience elle est pétée, parce que les combats ils sont pas top, enfin il y a tout un tas de choses à critiquer dans ce jeu, il y a ça qui marche et ça j'ai envie de le garder de manière très précieuse parce que j'ai envie que les développeurs s'en inspirent, tu vois, et qu'ils tentent des choses.
Non, en plus moi la mécanique qui me fait kiffer c'est les événements post-mort où tac tu meurs, un moment tu te réveilles dans une grotte, l'autre tu te réveilles en haut d'une montagne, c'est... Et en fait, tu sais pas où, tout ça, c'est assez cool comme mécanique. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce que t'as, à chaque fois, l'expérience était, comme tu l'as dit, un peu différente au niveau des morts? Parce que t'as dit un moment une grotte, un moment sur une montagne, tu penses qu'ils vont pouvoir renouveler et pas être redondants?
C'est ce qui me fait peur. Honnêtement, j'y ai pas joué énormément, donc je t'avoue que c'est ma crainte. Qu'au bout d'un moment, on retombe en boucle sur les mêmes vivantes, etc. Ouais. Et que l'immersion que là, je t'ai décrite, elle s'évapore, parce que pour le coup, là, tu verras les fils, en fait. Mmh. Et si tu commences à voir les fils, ça pose un problème, quoi.
Mais après, ça reste intéressant, quoi, même si, effectivement, au bout d'un moment, tu vois les ficelles, ça reste quand même des mécaniques assez cool, quoi.
Par contre, moi, il y a un aspect survie qui me plaît. C'est-à-dire que l'aspect, il faut aussi que je fasse des choix sur ce que je vais transporter, et il faut aussi que je fasse gaffe, c'est-à-dire que il y a des moments, par contre, où tu peux perdre ton sac à dos, hein, je précise. Alors, tu peux le perdre, mais attention, tu peux aller le récupérer après. Mais pour aller le récupérer, c'est tout de suite une aventure, etc. Il y a des mécaniques intéressantes aussi, par exemple, pour le combat, tu peux choisir de poser ton sac à dos par terre. T'as un bouton qui est dédié à poser ton sac à dos par terre pour être fighter la gueule, quoi. Parce que ton sac à dos,
attends,
il est lourd, tu vois.
Attends, j'arrive.
Ah non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, t'as une espèce de sangle, tu vois.
Ouais,
tu vois ton
personnage
qui tire sur la sangle, il lâche son sac. Et il va direct à la baston. Enfin, moi j'ai trouvé ça cool. Mais pourquoi personne n'a pensé avant, quoi ? C'est une super idée en fait. T'as une gestion du poids et à un moment donné, tu dis ok. Donc là, je vais combattre. Je sais que ça va être la merde si j'ai mon sac à dos parce qu'avec mon sac à dos, je suis méga lent. Et en plus, s'il tape dans mon sac à dos les ennemis, ça peut casser des objets. Je le précise. Enfin, tu vois, il y a plein de mécaniques comme ça qui sont cohérentes avec l'expérience qu'il cherche à proposer et je trouve ça vachement intéressant. Donc moi, Ren, je pense que ça pourrait te plaire.
Oui, franchement. Enfin, en tout cas, tu le vends très bien.
Alors par contre, il y a un mode coop. Honnêtement, le mode coop, je suis pas convaincu de l'intérêt.
Ah oui.
Parce que j'ai peur que ça rende le jeu trop facile et que tu loupes à cause de ça. Bah, tout l'aspect, je meurs.
Ah bah oui.
Et
oui,
je découvre des trucs, quoi, tu vois.
Bah, c'est surtout que s'il y en a un qui meurt et que l'autre il est toujours en vie, qu'est-ce qui se passe, tu vois?
Bah, je crois que tu peux relever l'autre, il me semble.
Donc, tu perds complètement le délire, quoi.
Et j'imagine aussi, si tu poses ton sac à dos en plein combat, il y a un bandit qui peut en profiter pour venir te le piquer pendant le combat, quoi.
J'ai pas essayé ça encore. Je t'avoue que le sac à dos, moi, j'ai tendance à le garder sur le dos, en fait. Déjà, il se trouve que j'ai trouvé une arme ultra pétée au début du jeu.
Ouais.
Quand je suis tombé sur des mobs qui avaient l'air dangereux, genre, tu sais, tu vois un mob au loin, il y a des espèces de particules de glace qui gravitent autour, tu fais... Non, je vais partir plutôt dans l'autre sens. Hein, merci, salut. Hein. Et c'est un jeu qui t'apprend à fuir aussi, tu vois. C'est une sensation que j'ai pas connue depuis très longtemps, depuis Morrowind. C'est ce côté, tu sais qu'il y a des endroits où c'est dangereux et où tu dis, ouais, non, mais plus tard.
Ouais,
merci.
Ouais, ouais. Comme il n'y a pas une sauvegarde automatique pour recommencer directement au checkpoint, tu dis, bon, là, si je perds, en fait, il y a des vraies conséquences à la mort.
Et c'est ça qui est bien. Le mec a compris que là, des mots des jeux d'aujourd'hui, je trouve, en tout cas sur les RPG, c'est que avec le quick save, quick reload, y a pas de conséquences, en fait. Tu peux faire ce que tu veux et t'assumes pas. Et là, c'est un jeu qui décide de te forcer d'assumer, quoi. Alors, ça plaira pas à tout le monde, mais moi, j'adore.
Ah, mais c'est intéressant. Moi, en tout cas, ça me donne envie de m'enseigner sur le jeu.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, ouais, le postulat que tu m'as vendu, ça m'intéresse. Comme ça, tu me l'as pas vendu comme un grand jeu, ultra bien fini, tout ça, donc je pense que je peux accepter les petits défauts qu'il y a.
Il y a plein de défauts, hein, je vous préviens.
Ouais, mais bon,
j'en ai pas parlé volontairement, parce que déjà, un, c'est pas un test, et deux, l'objectif de cette rubrique, c'est d'attirer votre attention sur ce jeu-là, pour que vous fassiez un avis. Allez pas l'acheter parce que Thierry dit qu'il fallait l'acheter, hein, je précise évidemment. Renseignez-vous sur le jeu, c'est quand même une expérience très particulière, il faut adhérer. C'est un jeu qui est pété sur plein d'autres aspects. Mais moi, j'ai envie que les gens s'y intéressent parce que s'il y a quelque chose d'intéressant, quoi.
Ouais, bah, le fait qu'il fait quelque chose de quasiment unique dans le jeu vidéo, c'est ça qui est intéressant. Tu m'aurais dit, c'est le même jeu, un Dark Soul où tu ne fais que mourir, etc. Sauf que le jeu est pété, il est buggé et tout. Je t'aurais dit, ok, mais je l'ai déjà joué plusieurs fois. Alors que là, vraiment, il propose cette mécanique qu'on voit pas souvent. Donc, du coup, c'est sûr qu'il y a un petit capital sympathie de départ qui peut être intéressant, quoi.
Et puis l'univers a l'air très intéressant. Mais bon, allez, je vais m'arrêter parce que là, je pourrais en parler des heures de jeu. Hein, parce que c'est vraiment une expérience qui m'a fasciné. Et, je pense que vous le sentez, je suis...
Bah oui, mais en plus ça, c'est un jeu à histoire en fait. Chacun peut raconter son expérience un petit peu à la manière de Breath of the Wild, où chacun racontait un petit peu ce qui s'est passé. Moi, t'es passé comme ça. Moi, j'ai utilisé plutôt ceci. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant, c'est d'en discuter après et de voir quel événement ils ont eu. Enfin, voilà, c'est un jeu à histoire.
Je pense que c'est ça qui fait son succès, tu vois. C'est que les gens parlent du jeu... à leurs potes en disant putain il m'arrivait ça et tout et ça fait des histoires quoi.
C'est ça.
Et les gens ils ont envie de vivre ça en fait quand ils entendent ça quoi. Voilà, allez, on va enchaîner et on va partir maintenant sur un sujet beaucoup plus mercantile, n'est-ce pas mon cher Brandon?
Oui, on va parler de Rage 2 qui a cru bon de faire une vraie annonce le 1er avril. Alors évidemment tout le monde s'est dit mais c'est un c'est un poisson d'avril et en fait non. On a appris le 1er avril que Tim Kitzrow, qui est donc l'annonceur de NBA Jam, qui a une voix incroyable et des expressions tout aussi folles, aurait un caméo en fait dans Rage 2, et que son caméo apparaîtrait sous forme de cheat. C'est-à-dire que vous allez entrer le cheat code dans le jeu, et en fait à chaque fois que vous faites quelque chose en jeu, et que évidemment les développeurs ont prévu un commentaire, de sa part, et ben vous aurez Tim Kitzrow qui va commenter ce que vous avez fait.
Bah alors, Morgan, c'est quoi le problème? C'est cool.
Oui, alors sur le principe, c'est cool, sauf qu'on a appris après, une fois que le 1er avril a été passé, que en réalité, il faut précommander le jeu pour avoir accès à ce cheat code, en fait. Deuxième chose, si tu achètes l'édition Deluxe, t'auras le droit à 3 autres cheat codes différents de celui-là. Et donc là-dessus, on nous fait une petite liste de 4 autres cheats que je vais pas vous détailler parce qu'on s'en fiche un petit peu.
Oui, non, parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité, en fait, ce truc-là. Tu
voilà,
vois, c'est...
clairement. Et dernière chose, en revanche, il se trouve qu'il y a un personnage non-joueur dans le jeu qui s'appelle le Wasteland Wizard, chez qui, en fait, on va acheter des cheats avec de la monnaie in-game. En revanche, il n'est pas précisé si on va pouvoir acheter la voix de Kitzrow à ce NPC-là ou si ça sera bloqué, en fait, derrière la précommande. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas.
Alors, deux choses l'une. Soit, ce dont on a parlé là, on pourra le débloquer en jeu, et dans ce cas-là, je trouve ça juste complètement débile, mais après tout, pourquoi pas. Faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez précommander des trucs pour pas avoir les débloquer dans le jeu, bon, ça me paraît curieux, mais bon, voilà. Mais par contre, franchement, si c'est exclusif au préco, mais allez vous faire foutre, quoi, sérieux, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas respecter un peu les joueurs et faire des jeux bien finis avec tout ce qu'il y a dans le package de base, et puis voilà. Alors, vous voyez, c'est vrai que ça pourra pas faire 36 000 éditions de luxe à commander comme Ubisoft, mais franchement, je trouve ça assez irrespectueux vis-à-vis des joueurs, en fait. Je peux pas formuler ça autrement, quoi.
Et c'est marrant que tu parles d'Ubisoft parce que... Quand tu précommandais une édition d'Assassin's Creed, par exemple Collector, l'édition ultime, t'avais même pas tous les bonus de précommande qui étaient inclus dedans. C'est-à-dire que si tu voulais tel ou tel bonus en particulier, il fallait que tu commandes deux éditions différentes. Et ce qui est un truc complètement aberrant, déjà quand tu commandes l'édition ultime, bah tu t'attends à avoir un peu tout dans le jeu. Il y avait eu le cas avec Deus Ex Mankind Divided, où vous avez dit oui, plus les gens vont précommander le jeu, plus on va mettre de bonus de précommande à l'intérieur.
Ah et putain, ça... tu me rappelles des mauvais souvenirs, quoi, c'est pas bien hein, ce que tu fais.
Ouais, et du coup les gens se sont dit bah allez vous faire foutre quoi, tu vois, et on connaît la suite malheureusement avec Deus Ex, c'est que le jeu s'est très mal vendu, pourtant il avait reçu un bon accueil critique, et j'avais d'ailleurs bien apprécié le jeu, mais c'est vrai que à force de tirer trop sur la corde et de prendre un peu trop les joueurs pour des cons, ça risque de se retourner un petit peu contre les éditeurs quoi. Et surtout les développeurs qui eux malheureusement ils sont pas eux qui sont à l'initiative de cette chose-là, je suis sûr, c'est les éditeurs qui veulent forcer la précommande d'avoir de l'argent sur le Day One. Et voilà, c'est des techniques marchands de tapis, quoi, en fait, c'est pas...
Ouais, mais ça, tu vois, c'est typiquement des trucs qu'on avait gratos à une époque, on trouvait ça cool, Bien sûr. Là, on te les met derrière un paywall, parce que, bon, j'imagine, mon Dieu, c'est pas suffisant que notre jeu, il se vende 1 million, il faut en plus qu'on se refasse des sous derrière, enfin...
Ce qui est con, en fait, c'est que c'est typiquement le genre de news, il y aurait pas eu l'histoire de « il faut précommander pour l'avoir », on se serait tous dit « putain, c'est trop cool ».
Il faut qu'on achète le jeu, ça a l'air trop marrant, tu vois. Enfin,
ouais.
Alors, je précise quand même que le truc acheté en argent in-game, je sais pas s'il y aura des histoires de...
Genre t'achètes de la monnaie dans le jeu pour...
Non, non, parce que ça, ils ont précisé...
Voilà, je pense que c'est de la monnaie du jeu, enfin, de... Voilà, tel que tu gagnes en tant que joueur.
C'est un peu aberrant pour un jeu solo comme ça, quoi. Tu vois, enfin, même si Assassin's Creed, ils le font, mais... Pardon.
Enfin, voilà, c'est... c'est compliqué, quoi. Faut qu'ils arrêtent tout ça.
Mais en plus, ces trucs-là, c'est même pas que c'est tout de suite, tu sais, révoltant. C'est juste que tu sais pas, en fait. C'est comme les trucs avec EA. Ils sont obligés de te faire un fichier Excel pour que tu comprennes comment le jeu sort, tout ça. Tu comprends rien.
Mais c'était mythologique.
Tu comprends rien, en fait. C'est tellement nébuleux que tu sais pas si le truc sera uniquement en précommande. Donc, en fait, t'es énervé et confus, tu vois. Tu sais pas si t'es énervé, tu vois.
T'es énervé, en fait.
Parce qu'en fait, si finalement, tous ces trucs-là, tu peux les débloquer en jeu auprès du Wizard, tu vois qu'ils le disent clairement. Et je pense qu'il y aurait, moi, en tout cas, moi, perso, je serais moins en colère, tu vois. Je dis, laisse les gens précommander s'ils sont assez cons pour juste préco parce qu'ils veulent pas débloquer en jeu. Sauf que là, c'est pas clair. C'est toujours ça, en fait. L'un des problèmes, c'est que c'est hyper nébuleux. Mais bon, bref.
Et c'est pour ça, ouais, moi, que j'avais bien aimé, en fait, l'initiative de Santa Monica avec le dernier God of War. Ils ont sorti le jeu complet. Et ils ont dit, on fera pas de DLC. Et là, tu te dis, putain, ouais, un jeu comme ça qui a coûté autant d'argent que God of War, qui a suscité pas mal d'attentes, j'ai l'impression que l'industrie quand même réfléchit un petit peu. Enfin, certains de l'industrie réfléchissent un petit peu, tandis que d'autres s'enfoncent complètement.
Mais surtout, c'est la seule industrie où on voit ça, quoi. Vous imaginez si on vous vendait un bouquin et on vous disait, bon, vous avez retiré les pages 40, 60. Voilà, si ça. Vous les voulez, il faudra payer le DLC. Hein, enfin,
tu veux une belle couverture, et ben précommande.
Quoi que je dis ça, je suis injuste avec le jeu vidéo. Le jeu de plateau aussi, c'est pas mal dans le genre.
Oui. Ah oui, oui, oui.
Ah oui, ah ça.
Allez, messieurs, on va passer à la suite et on va désormais parler de notre reporter préféré. J'ai nommé Jason Schreier. Ce monsieur a sorti cette semaine un article fleuve sur les coulisses d'Anthem où il explique comment on en est arrivé là. Alors, spoiler alerte, rien de bien original, hein, évidemment, c'est-à-dire que c'est la recette habituelle du jeu qui marche pas. On a des décideurs qui ne prennent pas de décision. On a un moteur de jeu qui ne fonctionne pas bien, comme les précédents jeux de Electronic Arts. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il faut arrêter de forcer leur studio à utiliser ce putain de Frostbite, mais voilà. Le Frostbite, c'est toujours la merde. On a une production qui n'avance pas. On a des gens qui, au bout d'un moment, disent « Dites les gars, votre jeu, on sait qu'il n'est pas prêt, mais l'année fiscale est terminée à telle date, donc il faut le sortir, le jeu, point, voilà. » Et on a la croyance absolue que maintenant, comme les accès anticipés, ça fonctionne, on peut se permettre de sortir le jeu dans cet état-là, parce que de toute façon, le public acceptera. Voilà. Donc, je veux dire, il y a rien d'original là-dedans, fondamentalement, c'est juste passionnant à lire. Alors, on a une réaction d'Electronic Arts. Je précise que Jason Schreier a pris la peine d'appeler Electronic Arts pour leur dire, alors, je vais sortir un article qui est pas très flatteur pour vous. Je précise que dans mon article, je vais citer un certain nombre de noms. Est-ce que vous voulez réagir?
Ah, le mec, il est fair play, quoi.
Fair play. Ils n'ont pas voulu réagir. Ok. Il sort son article. Et là, on a un communiqué d'Electronic Arts qui sort. Qui dit en gros il a pointé certains développeurs de chez nous du doigt, c'est pas bien, il faut pas pointer les développeurs du doigt. Alors déjà, si vous aviez réellement pris la peine de lire son article, vous vous seriez rendu compte avant de sortir votre communiqué que certains développeurs qu'il nomme déjà, c'est pour donner différents points de vue. D'ailleurs, quand il peut donner la parole aux personnes qu'il nomme, il leur donne la parole et ces personnes, elles répondent. Notamment, je crois, alors je me souviens plus du nom de la personne, mais la personne qui était le responsable du scénario, notamment, qui avait bossé sur Dragon Age, il lui a donné la parole. Je précise que cette personne est partie du studio depuis. Elle a répondu, écoutez, on me reprochait par exemple de faire un scénario à la Dragon Age qui rentrait pas dans les clous de ce qu'avait fixé l'équipe avant que j'arrive, sauf que moi c'est ce qu'on m'a demandé en fait. Mmh. Voilà. Donc je faisais mon boulot. Donc fondamentalement, ok, il a cité son nom, mais il y a rien de grave en fait, tu vois. Enfin, il a pas dit regardez, c'est de sa faute à lui, machin. Alors certes, c'est vrai, il pointe du doigt le fait que il y a un problème dans le management.
Oui.
Mais à aucun moment donné, il dit sortez les fourches, allez tuer ces gens-là. Quoi. Enfin, tu vois que les gens n'ont pas lu l'article, quoi qu'il arrive.
Bah oui, c'est simple, parce que le post de blog, il est sorti quelques minutes seulement après la publication de l'article de Kotaku, en fait.
Ouais, c'est comme les mecs qui regardent une vidéo d'une heure trente et tu vois au bout de cinq minutes, il a dit « Ah, oh, il est très bonne vidéo ».
Ouais. C'est ça. Et donc derrière, on a eu un mail interne à BioWare qui a leaké. Il faut croire que les employés sont un peu d'accord avec l'article, hein. Je dis ça comme ça. Ou t'as Casey Hudson qui reconnaît que oui, il y a des problèmes, quoi. Évidemment qu'il y a des problèmes. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, quand t'as un jeu qui sort dans cet état, enfin, on va pas redire ce qu'on a dit ici les semaines précédentes, hein. Je veux dire, quand t'as des problèmes de base sur les stats de ton jeu, alors que dans un looter-shooter, les stats des armes, etc., c'est quand même un peu la base, c'est forcément qu'il y a eu des gros problèmes. Alors, par contre, petite satisfaction personnelle. Je me souviens, lors de la démo E3 2017, avoir dit « Le trailer, c'est du pure bullshit ».
Oui.
C'est qui avait raison? Hein? C'est Kiki? C'est Kiki qui avait raison? Hein? C'est Kiki? C'est Tyran qui avait raison. Voilà. Non, mais voilà. Enfin, la démo E3 2017, c'est la démo qu'ils avaient montrée à Patrick Söderlund, qui est un vertical slice, en gros. Sauf que, évidemment, c'est un truc pure bullshit où t'as aucun des mécanismes de jeu qui est réellement en place. C'est des décors de papier, quoi, en fait, si tu veux. Ouais. Derrière, t'as pas un vrai jeu. Donc, forcément, t'as un jeu super beau parce que y a pas tout le merdier qu'il y a à gérer dans un jeu normal, tu vois. Évidemment que les bestioles de K-pop comme ça, c'était du pur bullshit. Enfin, je l'avais dit. Par contre, ce qui est inquiétant, et ça me fait peur pour l'avenir de BioWare, c'est que visiblement cette démo qui est quand même très peu de temps avant la sortie, 2017, c'est hier. Hein, enfin voilà, c'est 16 mois de développement par rapport à aujourd'hui. Apparemment, ils ne savaient toujours pas à ce moment-là quelle était la direction du jeu. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que ah oui, le jeu qu'on doit faire, c'est ça en fait, tu vois. Donc c'est assez inquiétant.
C'est ça qui est ouf en fait quand tu lis cet article. Alors pour évidemment rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est taré, c'est que le jeu en fait, il a été en tout et pour tout développé sur 6 ans et demi, mais en réalité, il a été en pré-production pendant 4 ans. Et au moment, si tu veux, où c'est fin 2016, les développeurs présentent une démo à Patrick Söderlund. Cette démo en fait, dedans, ils ont enlevé le vol. Parce que ils ont pas arrêté de l'enlever, de la remettre, cette mécanique de vol. Ils savaient pas quoi en faire. Le truc, c'est que à force d'enlever et remettre une mécanique, et de pas savoir ce que tu veux faire de ton jeu, et ben t'as des gens de tes départements level design qui travaillent sur des trucs qui au final vont être jetés, et puis au final ils vont travailler sur autre chose qui au final va encore être jeté.
Et qui en plus se met super longtemps à être produit parce que ils s'en sortent pas avec le moteur.
Et donc, cette première démo qui a été montrée à Söderlund, Söderlund l'a pas aimé du tout. Il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les mecs? Et donc, les développeurs, ils le disent dans l'article, très clairement, ils ont travaillé sur une démo Söderlund. Et c'est ça qu'on a vu, en fait, à l'E3 de juin 2017. Et c'est à ce moment-là seulement que les développeurs se sont dit, bon, bah, c'est ça qu'on va faire. Et c'est à ce moment-là que commence seulement la production du jeu. Donc, entre juin 2017 et la sortie du jeu, du coup, mars 2019, voilà le temps qu'a été alloué à BioWare pour faire son jeu. Et c'est là que tu te dis, mais les mecs, enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est... Le côté décisionnaire, moi, c'est ça qui m'a rendu ouf, en fait, en lisant ça.
Cela dit, Morgan, je te ferai remarquer que le côté décisionnaire, enfin, moi, personnellement, pour avoir travaillé avec des grosses boîtes, et pas que des grosses boîtes d'ailleurs, enfin, malheureusement, c'est très courant dans les boîtes. Enfin, n'importe quelle personne qui a été salariée dans une grosse boîte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, dans le développement, mais pas que le développement, je suis désolé.
Ouais, bah oui,
dans n'importe quelle grosse boîte, ce genre de merdier où il y a des personnes qui doivent prendre des décisions, qui n'en prennent jamais, ou quand elles en prennent, c'est des décisions totalement débiles. Je suis désolé, mais c'est le pain quotidien de pas mal de grosses boîtes, quoi. C'est un vrai problème.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce qui est très intéressant, c'est suite à l'article de Jason Schreier, qui a fait beaucoup de bruit, il y a plusieurs autres développeurs de gros studios AAA qui l'ont contacté, et ils m'ont juste dit, en fait, tu remplaces BioWare par le nom de mon studio, et c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est terrible, en fait.
C'est ça qui est démoralisant, enfin, c'est...
Ouais, non mais surtout l'histoire avec la démo E3. La démo E3, en général, tu te dis, ok, les mecs, il y a eu la pré-production sur le jeu, on va nous montrer une phase de gameplay, c'est-à-dire que le projet, il est quand même dans un état assez avancé du développement. On sait dans quelle direction on va. Et là, en fait, t'apprends en lisant l'article que non. Ils ont dit, ok, on va faire Iron Man dans l'espace et on se balade, mais ça s'arrêtait là, quoi. C'est-à-dire que derrière, il n'y avait pas d'idée de game design final, il n'y avait pas d'idée de scénario final.
Ah, mais quand tu lis ça, tu comprends tout de suite pourquoi Artem, il est aussi catastrophique, quoi.
Ouais, enfin, et puis même, quand tu regroupes un peu les déclarations qu'il y a eu ici et là, avec, par exemple, Amy Henning, qui disait que le moteur Frostbite, il n'était pas du tout fait pour TPS.
Elle avait bien choisi son timing, 3 jours avant la sortie d'Anthem.
Donc voilà, Anthem, c'est un jeu qui, très clairement, aurait mérité un plus long temps de développement. Et moi, c'est comme je le dis à chaque fois qu'on parle de ce jeu-là, c'est que j'ai très peur pour BioWare, sur les décisions que Electronic Arts prennent, tout simplement, pour leur studio, et même pour leur communication en général. Parce que là, ce que t'apprends, c'est quand même assez grave. Les mecs, ils
sortent... C'est de l'escroquerie, quoi. Enfin, je suis désolé. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. On te vend un jeu qui n'existe pas,
c'est
en fait.
Ça.
Alors, par contre, moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, du coup, ah bah ça va, c'est la faute de BioWare. Bah. C'est pas la faute d'Electronic Arts, tu vois. Enfin, non, mais à un moment donné, les gens, rappelez-moi, c'est quoi le rôle d'un éditeur? Un éditeur, outre le fait de te filer du pognon, son rôle, c'est de contrôler ce que tu fais. Si, au bout de 4 ans, le jeu est dans cet état, c'est qu'il y a un problème chez l'éditeur aussi. Parce que le rôle de l'éditeur, à un moment donné, c'est de dire, attendez, là, vous en êtes que là? Non mais attendez, les gars, c'est pas possible. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. On va mettre les moyens qu'il faut, tu vois, mais il faut qu'on fasse quelque chose, là. C'est ça, le rôle d'un éditeur. C'est de te taper sur les doigts quand il y a un problème.
C'est surtout que c'est lui qui valide le projet, en plus, donc...
Oui, non, mais de valider le projet, en plus. Et c'est qui, à la fin, qui dit, au fait, le jeu, on va le shipper? C'est pas le studio, c'est l'éditeur. Donc, c'est l'éditeur qui sait qu'il va sortir une grosse merde. Pourquoi il la sort, sa grosse merde? Parce que la fin de mon année fiscale, c'est là. Et on te donnera pas de données supplémentaires. J'en ai rien à foutre que le jeu qui soit pas fini. J'en ai rien à foutre que les consommateurs, ils récupèrent un jeu de merde. Moi, je veux que mon jeu, il soit shippé à cette date-là. Soit dit en passant, peu importe que on ait sorti des jeux à service juste avant, qui vont cannibaliser ce jeu-là, j'en ai rien à foutre. Il faut qu'il sorte à cette date-là. Donc moi, je suis désolé. Oui, il y a des gros problèmes en interne à BioWare, comme dans pas mal de studios. Je rappelle les histoires chez Rockstar. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. On pourrait mettre la même chose chez Rockstar, sauf que chez Rockstar, ça a bien tourné. Et que chez Rockstar, il y avait peut-être une vraie vision aussi, par contre. C'est-à-dire que Rockstar, par contre, j'ai l'impression que eux, ils ont pas de problème de dire ok, nous, le jeu, on veut que ce soit ça, tu vois.
Ouais,
par contre,
fait,
Rockstar, ils ont un problème de, on change tout le temps d'avis sur des détails, sauf que ces détails, pour les changer, ça prend 3 plombes. Donc, il y a un vrai problème chez BioWare. Je dis pas le contraire. Ce que je dis, par contre, c'est que s'il vous plaît, les gens, arrêtez de dédouaner Electronic Arts, parce que le rôle d'un éditeur, c'est de s'assurer que le produit qui sort, il soit de qualité, hein, et que regardez, les 16 derniers mois, c'est bizarre, on a mis un gars à la tête du studio qui a pris des vraies décisions et ça commençait à prendre forme. Est-ce qu'on n'aurait pas pu laisser le temps à ce gars-là de finir ce qu'il avait à faire?
Ah bah non, le temps il est imparti.
Ça, juste moi, ça m'a beaucoup marqué parce que Marc Dara, c'est un mec que je voyais souvent en interview. Et effectivement, pendant les derniers mois d'Anthem, mais il avait l'air, enfin... Moi-même, je disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il était exécrable en interview. Tu comprenais pas ce qu'il voulait dire. T'avais tout le temps l'air de le faire chier. Et maintenant, je comprends. On lui a donné 16 mois. On lui a filé que de la merde. Un outil qui fonctionne pas avec Frostbite, etc.
Ah bah, tu m'étonnes en interview de se dire, putain, mais
ouais,
qu'est-ce que je fous dans cette galère,
ça,
quoi.
Ça sentait. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce truc avec Frostbite aussi que je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, sur Dragon Age Inquisition, ils avaient eu le même problème. C'est que Frostbite était pas adapté, donc ils avaient perdu un paquet de temps. Je crois qu'ils avaient perdu 1 ou 2 ans à adapter le Frostbite pour créer le truc, donc ça te fait déjà prendre du retard. Derrière, quand ils vont l'utiliser sur FIFA ou autre, bah ils mettent les moyens. Et comme chez Sony ou autre, bah t'as une team de chez DICE qui va chez les équipes de FIFA pour leur apprendre comment utiliser cet outil.
Et là où c'est un problème, c'est que les studios qui ne font pas FIFA passent au second plan pour les équipes de support, en fait. C'est-à-dire que FIFA, c'est la poule aux œufs d'or, c'est clairement dit dans l'article, et en gros, on met tous les moyens sur la poule aux œufs d'or, et les autres, mais démerdez-vous avec nos moteurs, on n'a pas le temps de s'en occuper, quoi. Donc débrouillez-vous, si vous savez pas faire ça, c'est pas notre problème, on s'en occupera quand il y aura le feu, tu vois, parce qu'en gros, c'est ça qui s'est passé. C'est que quand ils se sont rendus compte chez Electronic Arts que la maison était en train de brûler, ils ont envoyé à ce moment-là les équipes de support de chez DICE. Mais c'est trop tard, enfin, putain, si vous êtes pas incapables de supporter correctement un moteur, s'il vous plaît, laissez-les au moins choisir leur propre moteur, quoi. À un moment donné, c'est pas viable de sortir des projets comme ça. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a pas de vision long terme. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est, t'as l'impression qu'on est dans le court-termisme. On est là, on dit, ok, bon, FIFA prioritaire, le reste on s'en bat les couilles. Vous faites votre truc dans votre coin, là, on viendra voir à la fin si ça marche. Enfin, t'as l'impression que l'organisation zéro, quoi.
Et surtout, un thème, c'était une nouvelle licence. Quand tu te lances une nouvelle licence, une nouvelle IP, parce que on sait très bien comment ça va marcher. Une nouvelle licence arrive sur le marché, puis après elle va être exploitée pendant 10 ans après. Et c'est à ce moment-là où tu dois montrer patte blanche et faire les choses bien.
Alors par contre, là où il y a un gros souci chez BioWare, c'est quand je lis par exemple que ils refusaient de reconnaître que en gros Destiny, The Division et compagnie, Warframe, c'était des concurrents, parce qu'ils refusaient en gros de reconnaître que c'était un looter shooter, ce qu'ils étaient en train de faire. Tu dis là les mecs, enfin. Je sais pas, là, faut regarder la vie en face, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Enfin,
non, mais en plus, moi, je trouve qu'ils ont raison, parce que The Division et Destiny, c'était mieux fini que leur jeu, tu vois. Moi, je pense que si j'étais Ubisoft, j'aurais été un petit peu déçu d'être comparé à eux.
Il y a aussi un truc qui va plus loin que ça, c'est que il y a aussi une vraie dissonance entre les deux différents studios de BioWare. Mm-hmm. C'est-à-dire que il est vécu même en interne que le studio d'Edmonton, donc le studio fondateur, et l'équipe 1, et que le studio d'Austin, c'est l'équipe 2. Ce qui est con, parce que l'équipe 2, elle a quand même travaillé sur un jeu qui est en ligne, qui s'appelle Star Wars The Old Republic, alors qu'elle sert tous ses problèmes, mais qui a quand même... ils ont appris de ce développement-là. Et donc, à chaque fois, quand ils ont livré Andromeda, ils ont commencé, évidemment, à travailler sur Anthem. Déjà, il leur a fallu comprendre ce que c'était qu'Anthem, parce que c'était pas forcément évident pour eux.
Bah déjà
même qu'eux,
ils savaient pas chez BioWare.
Et une fois qu'ils ont compris ce que c'était, c'est tout à fait logique, ils ont commencé à donner des commentaires, des espèces de conseils, des observations, des analyses sur ce qu'était le jeu dans l'état actuel et ce qu'il était prévu d'être.
Bah parce qu'ils avaient une expertise quand même, enfin, bien quand sûr. T'as un expert, tu l'écoutes quoi.
Et à chaque fois, c'est quand même symptomatique, et là encore une fois, on peut analyser ça à l'échelle de toute entreprise grosse ou petite, que en fait, par moment, quand le décisionnaire il a pas décidé de t'écouter, bah il t'écoute pas.
Ah mais surtout, ils ont dû se dire... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les remplaçants, là? Hein? Ouais, vous allez nous dire comment bosser? Ah non, c'est nous, les vrais BioWare, vous êtes les faux. Donc, voilà, vous attendez sur la touche, là, et puis vous nous regardez comment faire un jeu. Genre, ils ont dit, nous, on a notre vision, on va y aller comme ça, et qu'ils ont pas voulu écouter, en fait, les retours, alors pourtant, comme tu l'as dit, c'est des mecs qui ont quand même de l'expérience, ils ont travaillé sur des jeux massivement en ligne. Ça aurait été intéressant, justement, qu'il y ait eu des retours entre les deux studios. Enfin, surtout qu'ils sont là pour travailler ensemble, ils sont pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça qui est un petit
surtout
peu con.
Surtout que c'est con parce que Star Wars The Old Republic, c'est précisément un jeu en ligne qui sait raconter des histoires, en fait. Ce qu'ils voulaient faire avec Anthem, non, juste au passage. Donc, ça aurait peut-être été utile, je sais pas, moi, d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Non? Non?
Ah, mais tu sais, un scénario, maintenant, dans les jeux vidéo, c'est surfait, quoi. Maintenant, il faut que ça aille vite, les gens, ils ont besoin de consommer du fast-food, et voilà. Donc, le scénario, on s'en bat les couilles.
Bon. Messieurs, je pense que on a fait le tour de la question, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Bon, ben, à part que d'habitude je suis le mec un peu positif, mais là, sur BioWare, ça va être compliqué, quoi. Dragon Age 4, point d'interrogation.
À savoir que Schreier, a priori, est en train de travailler sur un papier sur Dragon Age 4, donc on n'a pas fini d'en entendre parler, BioWare.
Attends, c'est pas fini.
Espérons que ce soit un papier positif sur Dragon Age 4, au moins, tu
franchement,
vois.
Franchement, là, ça m'étonnerait, hein. C'est alerte
ouais,
bon, très tendue.
J'essaie d'être positif pour toi aujourd'hui, tu vois.
Non, mais je pense que la morale de cette histoire, c'est que, bon, il serait temps que les gros studios de développement se réforment un peu, et d'une manière générale, qu'on arrête de glorifier dans cette industrie le court-termisme et le crunch. Parce que ça aussi, c'est un problème, c'est que là, on a forcé des gens à gérer des trucs dans l'urgence, on n'a pas géré des projets correctement, ce qui aurait pu permettre d'avoir des conditions de travail à peu près normales, et encore une fois, on a le résultat de projets gérés à la zob, comme ça, ce qui malheureusement, encore une fois, est le lot quotidien de pas mal de grosses boîtes. Voilà, allez messieurs, on s'arrête là pour cette semaine, ciao tout le monde.
Salut.
Salut.
Ciao.